Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, c'est l'heure des grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Nous allons beaucoup parler d'Annecy avec vous. On compte sur vos témoignages, bien sûr, sur tout ce que vous ressentez au 32-16, là jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
On va
bonjour.
En parler avec Zora Bitant, cadre de la fonction publique. Bonjour Zora.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Bruno Poncet, syndicaliste cheminot, plutôt cheminot syndicaliste. Bonjour.
Bonjour à tous.
On ne sait plus trop d'ailleurs. Est-il avant tout syndicaliste ou avant tout cheminot ?
C'est la même chose.
Je suis avant tout cheminot et après syndicaliste.
À la SNCF, c'est la même chose.
Ça se confond.
Avec de l'huile de friture, mais vraiment,
c'est des vidanges avec de l'huile de train que vous n'utilisez pas tellement, ils ne roulent pas. C'est pour ça.
Mehdi Guézard, chef d'entreprise et des
dons aussi aujourd'hui.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour.
Avant de se lancer dans nos discussions, vous savez que lundi, à partir de lundi prochain, vous allez lire une semaine spéciale sur RMC et RMC Story. Vous allez vivre la semaine. Tous GG, les stars d'RMC, les vedettes des shows d'RMC vont venir passer et débattre une heure avec les grandes gueules.
Alors Estelle Denis, elle commence un peu à flipper parce que jeudi, elle sera encadrée par deux profs, Kevin Bossuet et Thomas Porcher. Hein, intérêt à bien dormir, la veille,
à bien réviser.
Non, moi.
Toi, tu te prends qui, toi ?
Moi, je prends Jérôme Bretagne, on va pouvoir parler d'un vrai
truc. Ça sera mercredi,
de
moi, je sais pas. Non, jeudi, c'est.
Non.
Bah toi, t'es jeudi, t'es avec Estelle Denis.
Ah bah
et
oui,
toi, moi, je suis Jérôme Rotel. Moi, un milieu du PSG, j'adore. Moi, ils ont bien fait les choses.
Oui, c'est bien, en fait. Il n'y a que des Parisiens, donc.
Lundi, on démarrera avec Apolline de Malherbe. Et Apolline aura avec elle la coach de vie Joël Dagosséry, l'ancien policier du RAID Bruno Pomard et l'avocat Charles Consigny.
Ensuite, Vincent Moscato, qui est en tournée en ce moment, mais qui revient sur Paris.
On aura prévu un traducteur pour Vincent Moscato.
Oui, parce que ça,
est-ce qu'il vous donnera des leçons
Il sera mardi, Vincent Moscato.
D'acteur, parce que moi j'ai vu dans une publicité là où il tombe d'une échelle et tout. Enfin, c'est grandiose. Hein, c'est, ouais. Je pense qu'il mérite un Oscar. Hein.
Et on va pouvoir parler aussi des podcasts avec Vincent. Donc Jérôme Rotten, c'est mercredi, on l'a dit. Estelle Denis, c'est donc jeudi avec les profs et les habitants. Et Daniel Riolo terminera la semaine vendredi 16 juin.
Non, tu dis pas des bêtises. Jeudi, c'est Estelle Denis avec moi.
Oui, et les profs, Thomas Porcher, Kevin Bossuet.
Ah, d'accord. Oui, bien
sûr. Vous savez.
Ah oui, on se rapproche.
Jérôme Rotten, c'est avec
la troisième. Voilà,
Jérôme Rotten, ce sera avec nos supporters du PSG, Mehdi Guézard. Et Bruno
Bien les
et la Marseillaise Kaouter Ben Mohamed.
Oui, moi j'attends surtout la rencontre Rotten Kaouter.
On vous a prévu un tarif spécial.
Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel.
C'est celle qui
va bien rigoler, je crois. On va bien rigoler.
Ah, va prendre un tarif,
elle va prendre cher là. Entre trois Paris, contre trois Parisiens, elle va prendre cher.
Bon, Jérôme, ça
Kaouter, si tu nous regardes, essaie de louper ton train mardi soir.
Ouais, Kaouter.
Vous avez vu la semaine qu'on vous a préparée. N'oubliez pas. Tous GG la semaine prochaine avec Apolline, avec Vincent, avec Jérôme, avec Estelle et avec Daniel Riolo pour conclure la semaine. Bon, on va partir sur notre premier sujet de discussion et ça va être notre fil rouge tout au long de ces trois heures. C'est ce qui s'est passé à Annecy. C'est vrai qu'on a franchi un degré dans l'horreur et beaucoup de questions autour de cet homme, ce Syrien de 31 ans, sa place en France, ses motivations. Il a mis des coups de couteau à des enfants au nom du Christ. C'est ce qu'il a dit. 32-16 pour venir en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. On va écouter ces témoins du drame.
RMC, les grandes gueules.
Alors, pour le coup, il n'a jamais fait parler de lui. Il se couchait tous les soirs à peu près à la même heure quand les boutiques ferment, donc vers 19h. Ça fait quelques mois qu'il dormait devant cette devanture. Il avait l'air tout à fait normal de toute façon. Il n'avait pas l'air drogué. On n'aurait pas dit que ça faisait très longtemps non plus qu'il était dans la rue. C'est ouais, plus de la peine qu'autre chose, quoi. Quand je passais devant, tout était toujours bien organisé pour qu'il se couche. En même temps, c'est pas une vie très facile de dormir dehors. Il était peu bavard.
Il était peu bavard, voilà, il posait pas de problème, il était couché au milieu du parc, c'est ce que dit ce témoin qui côtoyait donc ce Syrien de 31 ans.
Avant de parler de l'assaillant, quand même un mot des victimes, parce qu'on a encore 4 enfants qui sont soignés à l'hôpital, 2 sont encore en urgence absolue. On connaît leurs prénoms, ces petits-enfants qui sont tout petits, hein, puisqu'ils ont, ils sont entre 22 mois et 3 ans. On a Enyo, qui est hospitalisé à Grenoble, qui a 24 mois, nationalité française, le risque vital n'est pas encore écarté. Il y a Alba, qui, elle, est hospitalisée à Grenoble. Elle a 2 ans et demi, Alba. Elle est française. Le risque vital n'est pas encore écarté. Il y a Eti, hospitalisée à Grenoble. 3 ans, c'est la Britannique. Et puis, il y a Peter, son cousin, hospitalisé à Genève, 22 mois. Et puis, il y a aussi un adulte. Alors, il y a 2 adultes qui ont été blessés, mais il y en a surtout un qui a été grièvement blessé. C'est Manuel, 70 ans, hospitalisé à Annecy, blessé par arme blanche et par balle, puisqu'il a pris, malheureusement, la balle du policier qui tirait, bien sûr, sur l'assaillant. Mais ça a touché aussi la victime. Voilà pour les victimes. Et je précise qu'Emmanuel Macron se rend sur place aujourd'hui, après Mme Borne et M. Darmanin, hier. Concernant l'assaillant, il est toujours en garde à vue. Il tient des propos assez compliqués. D'ailleurs, même, il se roulait par terre hier en disant « kill me, kill me ». Donc on est face à quelqu'un qui n'est pas visiblement tout à fait normal. Enfin, on verra, c'est pas à moi de le dire, c'est au psy. En tout cas, on va y revenir, mais... Son profil et son parcours au sein de l'Europe, puisque ça fait 10 ans qu'il est en Europe, interroge aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'il faisait en France.
32-16 pour en discuter avec les JG, midi.
Écoutez, hier soir, en rentrant chez moi, étant père d'un petit garçon, le câlin avec lui a été beaucoup plus long que d'habitude, c'est incroyable, je m'en suis rendu compte ce matin. Parce que en tant que parent, je pense que chaque papa ou chaque maman a vécu la journée d'hier un peu trop durement. C'était quelque chose d'horrible. Quand on touche à un enfant, on touche à un petit ange. Et ce qui s'est passé hier est inqualifiable, intolérable. Quand je commence à entendre comme quoi peut-être c'est un problème psychologique, ou je vous dis la vérité, je n'en ai complètement rien à faire. Qu'on commence pas à me rentrer comme quoi il va être consulté par 43 psychiatres, 53 juges d'instruction et tout ça. C'est un assassin, c'est un tueur, c'est un terroriste, parce que le mot terroriste n'a toujours pas été... Pour moi, c'est un terroriste. C'est quoi un terroriste? C'est une personne qui sème la terreur par rapport à une idéologie, qu'elle soit musulmane, chrétienne, juive ou bouddhiste. Un terroriste, c'est ça. Donc, le monsieur doit être qualifié de terroriste.
Parce qu'il a retenu le parquet, pour le moment.
C'est ça, moi, ce qui me paraît bizarre. Mais en fait, toute la question est là. Pourquoi le parquet antiterroriste n'a pas été saisi? Parce que dès qu'il y a quelque chose qui se passe... Et qu'un terroriste, un assaillant ou quelqu'un qui commet un crime crie Allahu Akbar. Vous avez toutes les sections d'antiterrorisme qui descendent de Paris partout.
Il y en a
en
beaucoup
France.
Qui finissent en psychiatrie.
Et là, parce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ,
il y en a beaucoup.
Il y a rien.
En psychiatrie.
Donc moi je comprends pas le deux poids deux mesures. C'est un terroriste. Il doit être considéré comme un terroriste. Le type s'est pris à des petits anges, à des enfants avec une arme blanche. Enfin, c'est quoi la différence? Expliquez-moi, moi je veux comprendre c'est quoi la différence. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi on qualifie, parce qu'il y a deux mots, Allah Akbar, c'est un terroriste, non, là, au nom de Jésus-Christ, c'est
alors,
pas un terroriste.
Je vous pose la question, c'est pas parce qu'Allah Akbar est crié qu'il est jugé terroriste. Il y a des terroristes qui ont dit Allah Akbar qui n'ont jamais été jugés comme terroristes.
Plein. À jouer les tours, il y a un assaillant qui est venu au commissariat. Avec un couteau, il a crié à l'Akbar, il est en hôpital psychiatrique. Il y en a des tonnes.
Les gens qui ont fait des attentats qui sèment la terreur au nom d'une idéologie, quelle que soit leur religion, doivent être considérés comme des terroristes.
Sauf s'ils sont fous.
Point à la ligne.
S'ils sont déclarés
fous. Mais c'est facile. Alors ça fait 10 ans qu'il n'est pas fou, mais du jour au lendemain il est fou. Et il vient et tue des gosses et tue des gamins.
Vous
le connaissez, mais nous on connaît pas.
C'est pour ça qu'on est prudent.
Moi je suis pas prudent, moi je suis réaliste. Il a le gars s'est attaqué à des gamins. S'est attaqué à des gamins avec un couteau. Donc il doit être considéré.
Mais ça n'efface pas l'horreur. Non mais Mehdi, le problème c'est que dans ta bouche, tu dis en gros, s'il est déclaré fou, ça nie l'horreur des faits. Non, l'horreur elle est là.
Pour moi,
mais
c'est
effectivement.
Il y en a beaucoup qui se cachent derrière
si, ça. J'étais si au moment, si au moment des faits, alors, il n'était pas dans un discernement, eh bien, il sera déclaré. Je suis désolé pour toi. Il sera déclaré fou. Pour l'instant, c'est pas le cas d'ailleurs. La procureure n'a pas dit. Hein. La procureure a dit.
Pour l'instant,
pas de mobile terroriste apparent et pas de folie apparente. Voilà. C'est vrai qu'on s'interroge. Si c'est pas un fou, quel est son mobile,
Zora?
Bah, en fait, c'est vrai que d'abord c'est une pensée pour les enfants, puis pour les familles, et puis pour les gens qui étaient dans le parc. Enfin, c'est l'horreur. C'est pour eux, c'est un gros traumatisme qui va des familles dont les enfants ont été touchés à ce monsieur, mais aussi à tous les gens qui étaient autour. Pour eux, fuir comme ça, se sauver parce que un type court avec un couteau, c'est vrai que c'est assez dur à vivre. Donc vraiment, dans notre pays, on a cette capacité à balayer tout de suite les victimes et à passer directement à l'épluchage en long en large de l'assaillant. Par contre, moi, je voudrais exprimer un certain nombre de choses, et parce que j'ai vécu en live comment les choses se sont déroulées par les uns et les autres. D'abord, moi, il m'est même pas venu à l'idée de savoir quelle était l'origine religieuse, etc., de l'assaillant. Je me suis dit, c'est un taré, il faut vraiment être dingue pour aller...
Parce que c'est lui qui a crié au nom du Christ.
Voilà,
c'est
peu importe. On l'a vu beaucoup plus tard. Certains ont commencé à tirer des plans sur la comète, c'était l'islamisme, terrorisme, etc. Bon... Il faut laisser passer la vague où ceux-là sont habitués à tout de suite tirer des plans alors que les corps sont encore quasiment sur le terrain de l'acte. Et ensuite, il se trouve que le type est chrétien d'Orient. Et alors là, ça continue, des photos, il ne peut pas être chrétien, etc. Mais j'ai trouvé cette polémique d'une indécence, mais d'une violence, mais d'une indignité inouïe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la modération, elle a plus de mise. Personne ne nie la gravité de l'acte, personne ne minimise l'acte, personne ne récuse l'idée que c'est horrible ce qui s'est passé, mais quand même, on peut raison garder, et quand bien même, au bout du compte, on découvre qu'il serait musulman. Et alors ? Il y a des tarés partout, dans toutes les religions, etc.
Là, il est chrétien.
La vraie question, c'est, a-t-il agi commandité par quelqu'un ? A-t-il agi parce qu'il faisait partie d'une secte ? A-t-il agi parce qu'il portait une idéologie ? Mais à la fin, le populisme, c'est quoi ? C'est pendez-le sur la place publique, sans procès, il a tué, allez-y. Mais on est encore dans un état de droit. Il faut que la justice...
On a le droit de s'interroger sur son parcours
Exactement.
De réfugié.
Exactement. Et tout ça est mis sur la place publique, mais que les gens disent des choses vraies. C'est-à-dire que disent il est chrétien d'Orient, c'est ce qui est révélé, il a fait ça, ça, et ensuite, l'épluchage de tout ça, c'est la justice qui va le faire. Mais vouloir tout de suite faire des vindictes populaires, parler d'un traitement particulier, c'est aussi entretenir l'idée du complotisme. Quand on parle de francocide, c'est-à-dire que le mec, il a dit, ouais, alors aujourd'hui, il faut que je tue que des petits Français. C'est francocide.
On sait toujours pas pourquoi il s'en est pris à ces gamins.
Exactement. Donc, l'idée de francocide, c'est absolument immonde. Et l'idée de poids, de mesure, c'est aussi de faire croire à des gens que la justice est différente si selon d'où tu viens. Bah, je suis désolé. Des tarés, il y en a partout.
Pour l'instant, il ne dit pas exactement pourquoi il a fait ça.
Exactement.
Et ça doit résonner de manière un peu particulière.
Hier, ça a encore été une journée où j'ai peiné à croire en l'humanité, malheureusement. On est encore franchi à un degré dans l'ignominie. Mais toute cette semaine a été très dure. Parce que cette semaine, il y a quand même eu un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme devant ses enfants et qui s'est barré avec sa petite fille.
On a récupéré d'ailleurs. Hein, la petite fille a été récupérée. L'homme a été arrêté en Italie.
Il y a le procès des assassins de la petite Shaina. Cette gamine qui a été tuée, brûlée. Et j'ai entendu des familles, des gens qui ont massacré cette gamine dire c'est des bons gamins. Ils auraient jamais pu. Enfin, voilà, moi, je suis venu là pour eux. J'ai entendu, moi, la belle-mère d'Awas dire que tout, c'est normal de prendre une claque dans la gueule quand t'es une femme. C'est normal. Ton mari, des fois, il est un peu énervé. Tu vois, toute cette semaine, et là, évidemment, on touche le fond du truc, et je trouve que c'est compliqué.
Oui.
Et moi, on peut débattre de ce qui, mais moi, je peine à comprendre, et encore une fois, parce que ça résonne en moi, effectivement, je peine à comprendre comment tu peux passer dans ces actes-là. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un de normal, à quel moment tu peux décidé que tu vas poignarder des enfants de 22 mois. À quel moment tu te dis que je vais voir un landau?
Dans le landau, en plus.
À quel moment, tu vois, et c'est moi ce qui m'interroge au-delà de tout le reste, et je pense que la justice fera son travail, parce que là-dessus.
Ça l'est pris d'ailleurs à des enfants qui ont l'âge de sa fille, hein, parce qu'on a une fille de 3 ans.
C'est ça qui est dingue.
Est-ce que c'est pas ça? Alors après, moi, je vais pas faire la psychologie comptable. Est-ce que c'est pas ça le problème, vu qu'il voyait plus sa gamine et tout, et qu'il a peut-être pété une durite?
C'est lui qui était parti, hein.
Voilà, c'est lui qui est parti. Mais c'est fou. À quel moment tu bascules dans ce truc-là? Et j'espère réellement le fait qu'il soit pas mort. Et qui vont, on va peut-être pouvoir l'interroger, qu'on l'interroge, parce que le truc aujourd'hui, pour les gens qu'on subit ça, mais pour tout le monde, parce qu'en fin de compte, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi ça arrive.
Malheureusement, on risque d'être déçu.
Bien sûr.
On dit ça souvent, on dit oui, il est pas mort, on va pouvoir se comprendre, puis en général.
Oui, le mec a dit n'importe quoi.
Regarde, si je reprends le Bataclan, finalement, enfin, tout le monde était un peu déçu, parce que Saladessa n'a jamais vraiment rien dit, et ça n'a pas fait avancer les choses.
Et puis, les interprétations après derrière sont tellement floues.
Si lui, il se roule par terre et il dit tue-moi. Bon, ça va être compliqué.
Tu te demandes ce qu'il y a besoin,
C'est parce que l'idée de la psychiatrie chez les gens, c'est aussi croire que finalement on a balayé l'horreur. En fait, non. En fait, non. L'horreur, elle a existé. Mais en même temps, dans un état de droit, la justice doit faire son travail. Et si la justice déclare ce type, et j'en sais rien encore, hein, si elle déclare ce type qui est psychiatriquement fou.
Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de procès. Et ça va choquer. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est déclaré fou, il n'y a pas de procès.
Ah bah oui.
On avait eu ce débat ici même.
Mais un type qui tue sa femme et ses enfants dans sa maison, il n'y a pas de procès.
Non, mais certains.
Les meurtres dans les familles.
Sarah Limi, c'est symptomatique. Sarah Limi, cette dame, elle est morte.
Mais oui.
Et le mec se balade encore dans la rue, tu vois.
Mais oui.
Et moi, je suis pas pour.
Mais au moins un procès.
Mais qui est quelque chose.
Il est déclaré fou.
Comment sa famille peut dire ça?
Certains aimeraient qu'il y ait quand même un procès.
Mais bien sûr.
Quitte même à la fin de dire, il est fou.
Bien sûr.
Mais au moins, c'est pas certain. C'est toute personne normalement constituée.
Aujourd'hui,
pas
la loi, c'est pas ça.
Ben oui, mais la loi, peut-être qu'elle est mal faite. Peut-être qu'il faut faire quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens qui rentrent dans cette brèche, justement, où quand tu te déclares fou, ben, tu évites beaucoup de problèmes. Et
tu fais pas semblant d'être fou. Tu l'es vraiment quand tu tues.
Non, t'as des gens qui font.
Quand tu tues.
Si les gens ne profitent pas de ça, si maintenant on est autour de la table en train de se dire que les gens ne profitent pas de la brèche, que la psychiatrie peut éviter la prison.
Évidemment qu'il y en a.
Tu me dis non, les gens ne
sont pas fous.
Les gens savent très bien, Zora, que quand tu rentres sur ce terrain-là, tu as plus de chances de t'en tirer, tout simplement. C'est ce que je dis. Donc, pour moi, il y a eu un acte terroriste, il y a eu un crime abominable, que ça soit pour Sarah, pour Madame Halimi ou pour ici. Il faut le juger.
Mais il y a un autre aspect que vous n'avez pas encore abordé. C'est que faisait-il en France? Parce que moi, je pense qu'on a le droit de se poser la question.
Ah ben non, ça c'est.
Est-ce que cet homme qui avait obtenu un statut en Suède,
c'est un vrai
que
sujet.
Faisait-il en France, échappant? Parce que nous dit-on, il était en situation légale à tout contrôle, etc.
Il avait trois demandes d'asile en Suisse, je crois.
Oui, en Italie,
Suisse, Italie.
Ouais. Voilà.
Et donc faisait-il
en France?
On l'avait vu ces derniers jours errer dans ce parc.
Tu as raison. Un, que faisait-il en France? Et deux, est-ce qu'il n'y en a pas marre maintenant, franchement, de voir dans le métro, dans les parcs, qui ont des comportements erratiques, qui poussent des cris, et tu es là et tu te dis, le lendemain tu le revois encore, et tu te dis, mais qu'est-ce qui peut se passer?
Mais ça, c'est de la faute de notre pays.
On va continuer d'en parler dans un instant avec Yacine et avec Christophe, qui lui est du côté d'Annecy. À tout de suite.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Puis j'ai les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Annecy, degré franchi dans l'horreur. On en parle avec les grandes gueules, on en parle surtout avec vous au 32-16 avec Yacine qui est dans la Loire avant d'écouter Christophe en Haute-Savoie. Bonjour Yacine.
Oui, bonjour les GG.
Bonjour
Yacine.
Comment vous réagissez, mon cher Yacine, vous, de votre côté? C'est l'insécurité qui vous fait peur là, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Bon, pour commencer, un gros soutien à toutes les familles des victimes. J'espère de tout mon cœur que ces enfants vont s'en sortir réellement, parce que là, on a passé un stade sans prendre à des enfants, c'est catastrophique. Moi, je suis chauffeur du bus, donc je suis dans les transports en commun, un bus tramway sur Grenoble. La sécurité, on la voit tous les jours.
Vous voyez beaucoup de gens comme ça, de types qui un peu qui sont là, complètement erratiques, au profil psychologique perturbé, oui.
Mais psychologique, il faut même pas parler de psychologique là. C'est des zombies, ces gens-là, c'est zombieland ce pays. Il arrive à certaines heures, il y a des endroits où c'est zombieland. J'ai l'impression que c'est des zombies. Hier, je suis rentré à la maison, je suis père de trois enfants, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Ma femme me dit, Yacine, j'ai peur d'aller dans les parcs. On va où là? Ce qui s'est passé, c'est quoi?
C'est
un truc de fou ce qui s'est passé hier. Un mec comme lui là, ce qui s'est passé, je suis content qu'il soit pas mort. Un mec comme lui, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de justice. On le met en prison avec tout le monde. pas de quartier d'isolement, rien du tout, vous inquiétez pas. Sa peine va être bien que pour lui.
C'est pas sûr qu'il aille en prison, il y aura un examen. Il y aura un examen psychiatrique aujourd'hui.
Et c'est quoi, il y a quoi de psychiatrique? Et ça va être quoi?
Yacine, je vous dis les choses telles qu'elles sont.
C'est quoi la raison pour agresser des enfants dans un
Non mais Yacine, on est d'accord sur l'horreur. Je dis simplement qu'aujourd'hui il va y avoir un examen psychiatrique et peut-être que ils vont dire que cet homme peut pas être jugé.
C'est ça le problème dans ce pays. On est trop à droit de l'homme. Un mec comme ça, il a plus de droits. C'est terminé, il a passé un cap, c'est fini.
Oui, mais comme vous le dites, Yacine,
on va lui trouver une raison. Et c'est quoi? Parce qu'il a crié qu'il a tué pour Jésus. Qui crie pour Jésus, pour Allah, pour Iti ou pour n'importe quoi, on s'en fout.
Oui, mais Yacine, le problème, c'est qu'il faut aussi essayer de tirer des leçons de cette histoire, parce que...
Mais monsieur, les leçons, ça fait des années qu'il y a des actes comme ça. La leçon de quoi? On attend quoi? Là, pour moi, franchement, c'est j'ai pas envie de faire de comparaison, mais là, il s'est attaqué à des bébés.
Oui, mais on est d'accord
le
sur l'horreur.
Le Bataclan, tout ça, mais on va aller où, là, sérieux? Je sais pas, moi, j'en sais, on va où?
Ouais.
Les flics, ils font plus rien, ils peuvent rien faire.
Yacine, pour être franc, les policiers, ils auraient dû ouvrir le feu et terminer.
Bah, ils ont ouvert le feu.
Ils ont ouvert le feu. Mais il fallait. C'est pas bravo, monsieur, au seul monsieur qui a intervenu aussi, le seul.
Intervenu très rapidement, en 4 minutes, hein, donc ça aussi, il faut le souligner.
On n'est pas formé, non, mais il y a un vrai problème.
On en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on aurait bougé ou pas?
Est-ce qu'on y serait allé ou pas?
Mais Yacine, lui, c'est là. Tu entends la colère.
Oui, mais moi, par exemple, je suis allé en Israël plusieurs fois. Eux, ils sont formés à ça. Tout le monde se mobilise.
Tout à l'heure, à 10h, est-ce qu'on aurait bougé si on avait été sur place? Est-ce qu'on y serait allé? Est-ce qu'on aurait tenté quelque chose? Ça sera à 10h qu'on en parlera.
Non, mais moi, la question, je voudrais savoir. On a donc quelqu'un qui errait. Il y a plusieurs témoins qui ont dit ce type-là, on l'avait repéré, il était bizarre, il parlait tout seul, etc. Et on envoie des gens, des SDF, c'est-à-dire c'est pas que des migrants, mais c'est souvent des gens qui ont des parcours compliqués parce qu'ils viennent de pays, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont vécu en Syrie. Lui, a priori, il vient d'une ville syrienne où il y a une forte communauté effectivement de chrétiens d'Orient qui a été visée par Daesh et lui combat terrible. On ne sait pas ce qu'il a vécu. Il est arrivé en Suède, il a son statut de réfugié, et puis c'est bizarre parce qu'il reste 10 ans en Suède. Finalement, il s'intègre pas parce qu'à un moment donné, il se barre.
Il s'intègre bien parce qu'il a arnaqué les allocations quand même. Donc toi. Alors, le mec était pas fou. Faut être raisonnable aussi pour
remarquer. Il rencontre quelqu'un, il fait un enfant. À un moment donné, il dit, je me barre de la Suède, je veux aller en France. On sait pas pourquoi, tout d'un coup, il va aller en France. La France lui dit non, c'est pas possible. On nous dit qu'il est en situation légale. Pas tout à fait, puisqu'il pouvait pas rester aussi longtemps en France après une demande d'asile refusée. Donc là, il y a aussi une zone d'ombre et il va falloir expliquer aux Français parce que les Français comprennent pas ces règles compliquées. On arrive dans un pays, on n'a pas le droit d'aller dans un autre, mais on peut quand même y aller. Voilà. Et on a un type qui erre, qui visiblement a des soucis. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'interpeller? Est-ce que les policiers on aurait dû aller voir la police avant, dire il y a un type bizarre?
Ils l'ont interpellé dimanche, je crois, parce qu'il s'est baigné dans le lac d'Annecy.
Oui, on l'a interpellé dimanche.
Donc, tu vois.
Oui, mais est-ce que tu peux prévenir? Est-ce que tu peux penser à ce moment-là?
Bien sûr que non.
Deux jours après, il va prendre un couteau.
Mais malheureusement. Mais qui peut prévoir à un moment donné que quelqu'un pète un câble à ce moment-là?
Dans ce cas-là, il faut arrêter de les accueillir, ces gens-là, au moins. Il y a risque zéro.
On va en parler avec Christophe, qui est d'Annecy, justement, enfin, qui est annécéen et triste aujourd'hui. Bonjour Christophe.
Bonjour à tout le monde.
Quel est le sentiment qui domine? La tristesse, la colère, la rage?
Non, là, je vais vous dire, moi je suis triste, mais tout mon soutien en famille. Ouais. Mais moi je suis annécien, le paquet c'était sacré. Si vous voulez, le paquet, tous les annéciens, ils ont joué sur le paquet.
Ouais. Les annéciens d'ailleurs à côté hier. Hein.
Oui, et puis l'événement, il a eu lieu à côté d'un endroit qui s'appelle le Pont des Amours. Mais je vais vous dire qu'Annecy, c'est une carte postale, parce qu'il y a le côté pile et il y a le côté face. Le côté pile, il est sombre, parce qu'il y a une délinquance, il y a une incivilité. Nous, on ne sort plus à Annecy le soir, pour vous dire.
Alors, il paraît que ça s'est beaucoup dégradé, ouais.
Il y a des quartiers où vous ne pouvez plus aller. Il y a tellement aussi il y avait une douceur de vivre dans cette ville qui a complètement disparu. Et en fait, il n'y a plus d'annéciens. Pour vous dire, les annéciens qui peuvent partir, ils partent avec la boule au cœur parce qu'on vivait dans un paradis qui devient un enfer.
Mais c'est quoi? C'est de l'immigration non contrôlée et qui erre un peu dans
Non, en fait, c'est de tout. Parce qu'en fait, il y a la proximité de la Suisse qui a attiré beaucoup de populations qui, avec un SMIC à 4000 euros, c'est un flambe. Donc, il y a beaucoup de gens qui flambent avec des grosses voitures et il y a énormément de pauvreté à côté. Donc, ça crée des tensions. Et en fait, les gens, ils viennent aussi de Grenoble, Chambéry et plein d'endroits pour faire les poches des gens le soir à Annecy. Ouais. C'est ça qui. Il y a, parce qu'en fait, il y a une, tellement de richesse qui est étalée, c'est presque des fois indécent, que ça crée aussi les gens qui sont venus viennent ici, parce que aussi c'est le cadre, il est exceptionnel. Il y a toujours cette douceur.
Christophe, je repose cette question aussi que je demandais à Yacine. Il y a beaucoup de gens avec des comportements erratiques le soir, comme ça, qui zonent, qui traînent, oui, sans savoir qui ils sont
comme à Paris,
ou
comme
pas,
à Paris.
Christophe.
À Paris, c'est le cas,
comme dans le métro.
Donc, oui, il y a un pouvoir d'achat qui est très fort pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de problèmes de drogue aussi. Parce qu'en fait, ça attire que ce soit les délinquants qui fournissent la drogue et puis ceux qui les consomment. Et en fait, ainsi, derrière cette carte postale, c'est comme une ville R&B où il n'y a que du tourisme à mallette. Les Annecyens, ils vivent plus. Pour vous dire, moi, j'habite plus Annecy et je vais remonter encore plus haut dans mes montagnes pour être tranquille, pour retrouver cette douceur de vivre qu'on a tant perdue. Et si vous voulez, il n'y a pas un jour, moi j'ai une entreprise, je circule beaucoup sur Annecy, il n'y a pas un jour où je me dis mais qu'est-ce que c'est beau, c'est une carte postale tous les jours, c'est magnifique, qu'est-ce que ce soit le lac, les montagnes. Mais ça, en fait, la vie qu'on a eue avant, elle a disparu, on la retrouvera jamais, c'est fini. Et en fait, je me dis, mais à quel moment on va toucher le fond? Mais il n'y a plus de fond.
Et vous attendez quoi comme réaction, alors, du coup, Christophe? Qu'attendez-vous, vous, simplement, en tant que citoyen, annecéen plutôt, ou français, quoi? Qu'attendez-vous?
Ben, j'attends une situation qu'on prenne les choses en main, c'est-à-dire que, en fait, on voit Emmanuel Macron, il a utilisé le mot de décivilisation, mais on est en plein dedans, Et en fait, il n'y a plus.
Je suis pas d'accord avec ça, Bruno, je t'ai automatiqué. Décivilisation, parce que j'ai vu que ce terme était ressorti.
Non, mais j'entends Christophe de Butard et je comprends ce qu'il dit, parce qu'effectivement, moi j'étais à Annecy et tout, et j'ai mes copains de là-bas, ils m'expliquent la même chose. Mais sauf que, on peut pas prendre d'un cas particulier, un fait divers, fait par quelqu'un qui vient d'arriver 2 mois à Annecy, pour après, derrière, moi je pense que la situation d'Annecy est différente. Et oui, il y a certainement un problème, il y a certainement besoin de, à un moment donné, de remettre un peu d'ordre dans la ville, et puis un peu de faire certaines choses pour que ça se passe mieux. Mais là, on n'est pas de la même chose. Là, on parle de quelqu'un qui a vécu 10 ans en Suède sans avoir l'air de poser de problème, qui part de Suède et on ne sait pas toujours, sa femme ne sait toujours pas pourquoi, il se barre depuis 2 mois et d'un seul coup le mec il est en France et en France il vit comme un charclos et d'un seul coup il pète un pont, il tue des gamins. Enfin, moi je me dis.
Excusez-moi, je passe à la radio, je n'ai pas l'occasion de parler souvent. Ouais. Je suis d'accord avec cette situation, mais on la retrouve tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avant que un autre drame encore plus terrible et à un moment les Français. Il y a des gens, ils vont péter des câbles, c'est pas possible.
Oui, parce que Bruno, effectivement, tous les gens qu'on voit errer ne finiront pas, heureusement, par donner des coups de poignard aux gens. Mais c'est vrai qu'on a parfois quand même dans un sentiment d'insécurité avec ces types qui hurlent, qui sont là, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils sont armés, est-ce qu'ils ont des couteaux.
Oui, mais regarde.
On l'en voit dans le métro, enfin, dans les grandes villes, tu vois ça. Oui, mais... Tu vois aussi dans les villes moyennes comme Annecy. Donc, bien sûr,
je pense. Non, mais
sincèrement, hier, tous les parents se sont dit, mais quand on va au square, c'est vrai.
Ça.
Moi, j'ai, pardon, j'ai un petit qui a le même âge,
raison.
Que des enfants qui ont été tués hier. Donc, forcément, ça m'a beaucoup touché.
Ils sont blessés, ils n'ont pas été
blessés. Quand t'es blessé, pardon. Oh, oui, excusez-moi. Quand t'es blessé, mais donc ça m'a touché, forcément. Et je me dis, mais c'est vrai que moi, souvent, quand je vais au square, je vois des types un peu bizarres, etc.
Tu les vois, hein.
Voilà.
Oui, mais regarde,
tu les vois.
Mais
avant, on avait les gardiens de square. Aujourd'hui, il n'y en a plus de gardiens de square.
C'est un autre sujet,
il n'y a pas de budget.
Non, mais le mec, tu l'interpelles.
Ils enlèvent les budgets.
Le mec, tu l'interpelles. Et là, ils l'ont interpellé dimanche. Ils le ressortent, ils savent pas trop quoi dire sur lui. J'entends. Mais on a le parent pauvre de la médecine française, c'est la psychiatrie. Oui, si tu le prends et que tu l'emmènes dans l'hôpital psychiatrique pour un petit peu l'étudier, savoir un peu ce que le mec il fait, et puis te dire à un moment donné, bah, peut-être qu'il est pas bien, peut-être falloir qu'on s'en occupe. Mais t'as tellement pas de moyens, parce que déjà, les propres gens qui ont des maladies psychiatriques, ils n'arrivent même pas à être soignés.
Ils l'ont interpellé, le type.
Oui, mais ils l'ont interpellé, mais à un moment donné, mais comme les flics savent que derrière, il n'y a pas d'autre solution, t'en fais quoi? Tu mets l'antenne dans une cage?
Christophe, merci d'avoir été avec nous, Christophe. Bonne journée. On va aller dans la Marne avec Damien. Bonjour, Damien.
Bonjour les GG, bonjour.
Vous entendiez Christophe, hein, à la fois sa colère, son dépit, son envie que les choses bougent. Quel est votre sentiment, vous, ce matin, Damien?
Ben, moi, comme j'ai écrit sur Direct Studio, mon sentiment ce matin, quand je me suis levé, j'ai un peu d'émotion en vous parlant, mais j'ai été en pleurs en train de prendre mon petit déjeuner avec mes enfants, ma femme. Et mon petit de 8 ans, de 9 ans, me dit, ben, pourquoi tu pleures, papa? Et je dis, ben, parce que je suis triste du monde dans le... Bien, je suis triste de voir surveiller mes enfants au moindre mètre qu'ils prennent devant moi. Là, aujourd'hui, vous voyez, je suis en formation à Paris, je pars à Paris, là. Mes enfants, ils m'ont dit au revoir comme si j'allais à la guerre.
Non, mais rassurez-vous quand même.
Tu m'envoies. Non, mais moi, je suis rassuré, je ne crains pas, mais mes enfants, je parle. C'est pour mes enfants que je suis triste. Aujourd'hui, je suis obligé d'envoyer un message à ma femme pour dire que je suis bien arrivé, je suis sur les lieux, parce que mes enfants, ils ont peur, ils s'inquiètent, ils entendent des informations. Et je suis triste. Il y a eu les attentats, Bataclan, Nice et compagnie. Et aujourd'hui, des enfants, ça peut être mes enfants. Mes enfants, on leur laisse la liberté. Je me dis, mon fils, il a 13 ans, il part en vélo avec ses copains. Bah, peut-être qu'il reviendra pas un jour, on sait pas. Il y a des fous partout. Et le sentiment de colère que j'entends des différents intervenants, il est naturel, il est normal. Mais moi, c'est une énorme tristesse pour le monde dans lequel on vit actuellement. Moi, j'ai 38 ans.
Qu'est-ce que vous attendez? Qu'attendez-vous, Damien?
Mais un peu comme pas l'intervenant d'avant, mais celui d'avant, j'attends d'une justice qui soit vraiment présente, parce qu'aujourd'hui, cet homme, effectivement, bah, il va peut-être être classé comme fou, et de toute façon, comme l'a dit un des interlocuteurs chez vous, bah, pour tuer des enfants, enfin, pour poignarder des enfants, faut quand même être un peu dérangé, hein. Dans tous les cas, pour sortir de chez soi et dire, bah, aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un, faut être dérangé dans tous les cas. Mais j'attends de la justice, de la fermeté plus présente.
Non, mais il faut aussi parler de la question de la violence qui touche justement une partie d'une immigration qu'on ne traite pas, dont on n'a pas de réponse. Combien de QTF peuvent pas être envoyés, même si c'est une infime partie de la population, parce que la violence, elle n'a pas attendu l'immigration pour exister. On sait très bien que la violence elle existe depuis longtemps. Mais bien sûr, n'empêche que la question de la clandestinité est un problème humain, à la fois pour celui qui le vit, parce que sa situation ne doit pas durer des années, on ne doit pas mettre 1000 ans à donner un statut à un demandeur d'asile, et on laisse les gens errer. Et ça, ce n'est pas normal.
Merci à Damien d'avoir été lui aussi avec nous, d'avoir dit ce qu'il avait sur le cœur. Il y a aussi le volet politique, tout le débat, effectivement, tu as raison, sur l'immigration. Hier, on a entendu des reproches au Rassemblement National, oui, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, en disant Mais non, c'est pas le temps de la politique, c'est pas le temps de la polémique, c'est pas le temps de parler d'immigration. Laurent Jacobelli, le député Rassemblement National, sera dans les grandes gueules tout à l'heure, justement, à 11h avec nous, pour évoquer cet aspect politique. À 10h, là, dans 20 minutes, on reparlera des trois héros qui ont essayé d'intervenir hier. Est-ce qu'on aurait fait la même chose aujourd'hui? Puisqu'on est face à une insécurité grandissante, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on y serait allé? Nous aussi, on aurait tenté quelque chose? 32-16 pour en parler avec les GG, mais dans un instant, on s'en fout pas avec notre productrice Anaïs Sainz.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Tiens, vendredi prochain, j'ai un rendez-vous à donner à tous mes petits amis niçois, puisque à partir de 14h, je serai à Nice avec Laurie Canac, l'animatrice de la matinale d'RMC. On sera ensemble avec Laurie à la Chambre de commerce et d'industrie à Nice, au 20 boulevard Carabassel, dans le cadre du Tour de France BFM TV. Où toi, tu as fait une étape à Lyon.
Oui, avec.
C'est une grande rencontre, en fait.
Alors, c'est génial parce que donc j'étais avec notre camarade de BFM Lyon, et l'idée, c'est de dialoguer. Alors, c'est vraiment du dialogue direct. Donc, tu verras, il y aura autant de téléspectateurs de BFM que d'auditeurs d'RMC. Voilà, donc c'est un mélange. Donc, tu parles à la fois des grandes gueules de BFM, de l'info, des journalistes, de comment on fait l'info, des critiques aussi qu'on peut nous faire. C'est très bien, c'est vraiment libre parole.
Donc, étape niçoise avec Laurie Canac, qui présente la matinale de BFM Nice Côte d'Azur, avec moi pour échanger sur l'information, sur l'actualité, sur BFM. Toutes les questions grande gueule seront acceptées. Par contre, il faut s'inscrire, parce qu'il y a une limite de place disponible. communication@bfmtv.fr, et je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain à 14h, 20 boulevard Carabassel, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice.
On va venir à Nice.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. L'heure du name and shame a sonné pour les industriels. En tout cas, Bruno Le Maire menace de dévoiler les marques qui ne se prêteraient pas au jeu de la réouverture des négociations commerciales pour faire baisser les prix. Mais ça fait 3 semaines qu'on attend sur les industriels, qui jouent la montre pour revenir à la table des négociations. Qu'est-ce qu'il attend, notre ministre de l'économie? Est-ce qu'on s'en fout ou pas de ces menaces, mon cher Mehdi?
On ne s'en fout pas, là.
Zora.
Je m'en fous.
Bruno.
On s'en fout pas. Hein.
Bruno.
Non, mais le maire, c'est... Moi, j'aime bien ce genre de discours, parce que tu vois, il est en train de t'expliquer que ouais, les méchants, c'est industriel. Sauf qu'à un moment donné, tu fais quoi contre des gens que t'as mis en place? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il parle. Sauf que tu vois bien que les marges industrielles n'ont jamais été aussi hautes. Aujourd'hui, tu as beaucoup de matières premières qui baissent et les prix ne baisseront pas et ne baisseront plus jamais.
Si, il a annoncé ce matin qu'en juillet, à partir de juillet, vraiment, il y aura des baisses significatives dans les prix.
Ah ben, j'espère bien, parce que tu vois, hier, j'ai acheté un litre et pas 75 centimes d'huile d'olive, je suis monté à 12 euros. Donc, à un moment donné, j'espère bien qu'il va faire ça, parce que moi, je peux me le payer. Je connais plein de gens qui peinent de plus en plus à se faire leurs courses à partir du 5-10 mois. Donc, le maire, il peut s'attaquer aux industriels. Il va faire quoi contre le privé? Vu qu'à un moment donné, ils n'arrêtent pas de lâcher. Il lâche les brides à tout le monde.
Alors,
le
maire. Il y avait plusieurs fois qu'il menace de nommer.
C'est Pipo le maire.
De nommer les marques, enfin, les
industriels. C'est dommage, il a le plus beau prénom du monde, mais bon, il le porte mal.
Mehdi.
Bah, pour moi, la menace ne sert pas à grand chose. Généralement, les gens qui le menacent, c'est les gens qui ne font rien. Donc il devrait passer à l'acte, faire une sorte de
sans communiquer forcément.
Voilà, sans communiquer dessus. Allez, ça fait à peu près un mois ou cinq semaines qu'il est en train de dire je vais peut-être le faire. Si vous ne faites pas le nécessaire, je vais le faire. Il est ministre des Finances, qu'il y aille. Et je pense qu'il aura vraiment un gros soutien de la population, parce que il prendra vraiment à court des grosses sociétés d'alimentation qui ne feront.
En même temps, on n'attend pas Bruno Le Maire. Hein. Les associations de consommateurs,
ouais, mais
elles le font régulièrement. Excuse-moi, quelles sont les
une association de consommateurs n'a pas le poids d'un ministre. Excuse-moi, à un moment, tu prends le taureau par les cornes et t'y vas et tu te dis, Coca a mis tant de pourcents, Evian a mis Danone, le groupe Danone a mis tant de pourcents en plus, et que quand on me dit oui on va baisser à partir de juin, non, parce que moi je vois le truc gros comme un ballon.
Alain, n'achète pas les marques.
Alain, moi je vais te dire une chose, c'est pas vrai. Les ventes de Coca ont même explosé, d'accord. Ont même explosé. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Coca, parce que j'ai entendu ce matin.
C'est l'exemple qui a en tête Bruno Le Maire.
Exactement. Et il y a une chose qui est très importante aussi à savoir, c'est que si la ministre des Finances le fait, je peux te dire qu'il y a certains groupes qui vont commencer un peu flipper.
En fait,
parce qu'au mois de juillet, l'inflation va baisser, mais le prix ne reviendra pas avant Covid. Hein. Il va juste revenir. Voilà, le prix avant Covid, il faut l'oublier. Hein.
Ça fait penser aux parents qui menacent, mais qui mettent
jamais à l'exécution leur punition avec
leur
enfant.
En général, l'enfant, il a compris.
On continue, Anaïs.
Les GG, quelle est la dernière paperasse dont vous avez dû vous occuper, Mehdi? Ouais, trop de choses. Toi, t'es.
Les impôts, il n'y a pas longtemps. Non,
ouais,
les impôts, il n'y a pas longtemps.
Tout le monde aura.
Oui, pareil.
Les impôts.
Il n'y a pas longtemps, parce que c'est la période.
Et Bruno?
Bah, moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai rempli mon dossier pour être reconnu victime civile de guerre auprès de la FENVAC, l'association des anciens combattants, parce qu'il n'y a pas de statut de victime d'attentat. Et en fin de compte, là, quand je vois sur chaque paperasse, bah, moi, ça n'a pas été le cas. Ça a été assez simple. J'ai dû récupérer 2-3 documents que je ne sais pas où ils étaient, mais ça n'a pas été un truc trop surchargé. Et pourtant, c'est très cardé. Tu vois, dès que tu reçois un courrier de la FENVAC, c'est pas recommandé. Enfin, voilà, c'est du hardcore. Mais moi, je me sens pas surchargé par la paperasse.
Bon, les GG, sache, Bruno, que les Français s'estiment accablés par la surcharge de paperasse. 9 Français sur 10 se disent excédés par les démarches administratives, selon le dernier baromètre Odoxa. Une tendance qui ne s'améliore pas au fil des années. Les organismes les plus critiqués, la mairie, notamment pour les démarches pour les titres d'identité, les centres des impôts, la sécurité sociale aussi, suivent les assurances, les banques et les mutuelles. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi?
Non, on s'en fout pas.
Zora?
On s'en fout pas.
Et Bruno, du coup...
Moi, je veux dire, je m'en fous, mais bon...
Bah, en fait, on s'en fout pas parce que tout est une question de papier. Notre pays est dirigé par une bureaucratie qui est latente, qui est dure. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de personnel dans tout ce qui est administration. Donc, c'est très difficile. Maintenant, tu passes tout en hotline ou avec des mails. Il n'y a plus de physique. Tu sais, c'est très rare, ou c'est des rendez-vous, des choses comme ça. Donc, tout est compliqué. La preuve, juste pour faire les passeports, regardez le délai, le foin, les rendez-vous, les trucs. On a de la bureaucratie un peu pour tout. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. Pour faire les places de parking, c'est les stationnements résidents, places de parking. Et il faut avoir Bac+8 pour le faire, hein. Attention, hein. Il faut faire un master, pour le faire, le truc de parking résident.
Le site est pas simple. J'ai fait.
Waouh. Attention, hein. Il faut ramer, sur le truc.
Ouais, c'est très mal foutu.
Donc, à un moment, tu te dis, des choses simples, ils deviennent compliquées parce qu'ils te demandent, tu roules avec une bagnole de société, il faut prouver comme quoi c'est toi le gérant de la société, donc il faut que tu envoies le cabis, mais quand tu envoies le cabis, il faut envoyer une attestation comme quoi c'est toi, c'est bien toi le patron, mais excuse-moi. Là,
donc Thomas Thévenoud, il avait raison, on peut avoir une phobie.
Non mais tu rentres dans un délire où tu te dis, ça va jusqu'à là, quoi. Donc,
on enchaîne.
Et puis, la génération 1-1 dans le foot, incarnée par Lionel Messi, le champion du monde argentin, était malheureux à Paris. Il l'a admis lors d'un entretien accordé aux médias espagnols. Écoutez, Lionel Messi.
Ça a été deux années durant lesquelles je n'étais pas heureux, je n'ai pas profité. Ça a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses avec mes enfants. À Barcelone, par exemple, j'allais les chercher à l'école. À Paris, je n'ai pas pu. J'ai partagé beaucoup moins d'activités avec eux.
Ok, il était malheureux à Paris.
Malheureux. On s'en fout pas, Mehdi ?
C'est pas possible. Je peux pas s'en foutre.
Ok, Zora ?
Je m'en fous.
Bruno ?
S'en fout pas du tout.
Mehdi, vas-y.
Pour moi, ce mec est... une des plus grosses escroqueries que la Terre puisse porter sur son passage au PSG. Attention, je précise bien. Ce qu'il a fait à Barcelone est tout bonnement exceptionnel. Ce qu'il a fait à Barcelone est tout bonnement gigantesque. Mais que tu me dises que... parce qu'il faut écouter, moi j'ai écouté toute l'interview. Le type te dit, Barcelone ne pouvait pas me payer à 2 ans, donc j'ai cherché un club dans l'urgence et le PSG m'a donné ce que je demandais, quoi. Et le mec vient, il se fait 40 millions d'euros par an, il habite au Ritz et après il a habité au Meurice dans une suite de 450 mètres carrés et il te dit, je ne suis pas heureux. Mes enfants n'étaient pas heureux. Il avait 3 voitures qui le suivaient.
Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Oh. Ouais, bon, c'est bon. C'est pas, la marmotte, attends, la marmotte, va mettre le papier dans l'aluminium. Va mettre le papier dans l'aluminium. Va mettre le papier dans l'aluminium, s'il te plaît. D'accord. Allez. Le type, il venait des favelas en Argentine. D'accord. Il bouffait un jour sur deux. Après, du jour au lendemain, avec 40 millions par an. Et il te dit, ouais, je suis pas heureux. Arrête-toi de foutre de la gueule du monde.
Et grâce à Paris,
il a fait.
Il a pu être champion du monde.
Et il s'est préparé un centre d'entraînement à sa disposition pour l'Argentine. Moi, il est parti, il a gagné la Coupe du Monde. Et il te dit non, mais je suis pas heureux.
J'aurais
pas
le même discours que Mehdi. Je pense que Messi, c'est
une escroquerie. Voilà.
Messi a parlé
d'or.
Mais Messi est un très 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 grand joueur. Je pense que ça.
Ça, c'est vrai.
Je pense que c'est pas mes phrases, les deux footix, là. Je pense que c'est un petit homme. Je pense que c'est un petit homme. Et à Barcelone, il allait pas plus saluer les spectateurs. À Barcelone, c'était pas non plus un, c'est pas, tu vois, je pense que Messi, c'est un génie du football, et comme beaucoup de génies, je pense qu'il est un petit peu,
introverti.
Un peu introverti, je pense même qu'il est un peu focus sur son foot, et je pense que le reste, il est carrément déconnecté.
Focus, ça dépend.
Et surtout, il est très individualiste, et c'est un peu le problème de ces stars.
Ouais, vous préférez Neymar, les mecs.
C'est le problème de ces stars, mais Neymar, c'est pareil, c'est le problème de ces stars. C'est le problème de ces stars, s'ils ne pensent qu'à leur gueule. Le mec n'a rien à foutre du club.
C'est une star.
Il était content. Non, je suis désolé. Parce que dans l'histoire du football, il y avait des stars du football.
Platane.
C'est toi le footix, il y a des stars du football qui pensaient collectif et qui voulaient que l'équipe
des
soit la meilleure.
Si, c'est Zidane, c'est pas une star.
Zidane, c'est pas.
Et Platini, c'est pas une star. Non, mais arrête, mon grand.
C'est des gens
qui
arrêtent.
Vous aimez bien les images.
Il avait un objectif, c'était gagner la Coupe du Monde d'Argentine.
Il avait besoin d'un centre d'entraînement.
Zidane, il est gentil. Les autres, c'est des méchants.
Là, il nous fait moins.
Mais
t'imagines que t'es en train de défendre un mec qui a touché 40 millions par an.
Non, je vous dis juste que
pour me gagner la Ligue 1, d'accord, que le PSG gagnait sans lui d'ailleurs, d'accord, oui. Et qui te dit quand il a fini ses 2 ans de contrat, parce qu'il l'a pas dit pendant ces années de contrat.
Ça servait à rien, Paris.
Quand il a dit pendant ses 2 ans de contrat, d'accord. Ah non, mais en fait, j'ai
demandé pardon au supporter.
Silence,
Paris. Tu vois, j'ai pris ton pognon, après je te crache à la gueule.
T'as l'air Karkouri, de pas dire pardon non plus.
Il devrait demander.
Allez, dans un instant, les GG avec les grandes gueules, on va revenir sur ce qui s'est passé à Annecy. 3 personnes qui ont essayé d'intervenir. Deux agents d'entretien et puis ce jeune homme qui essayait avec son sac à dos de repousser l'assaillant d'Annecy. Est-ce qu'on y serait allé aujourd'hui? Est-ce que le problème de notre société, c'est pas ça justement, notre manque de courage? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.